Vous dites merde tous les soirs.
Ben oui, c'est une tradition.
Oui, merde.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans ce 15e numéro de Micro-Coulisses, l'émission qui vous fait découvrir les coulisses des spectacles en avant-première. Et aujourd'hui, nous nous rendons au Théâtre Cantor de l'ENS pour Ombre, Eurydice, d'Elfriede Jelinek, avec toute une troupe. Enfin, je vais peut-être tous vous nommer, mais ça fait une bonne équipe. Donc au jeu, nous avons Julie Borgel, Héloïse Denayer, Léa Romoli, Antoine Dumaine-Martel, Lucie Morel et Lily Ma. En mise en scène, Yann Gawen-Basset, Adrienne Bresnay, Lucie Morel. La scénographie est d'Andrea Vardé. Les costumes de Salomé Romano, la création lumière et son de Timothée Maison, la musique d'Aurore Flamion et la dramaturgie par Esther Friès. Et nous recevons aujourd'hui avec Colline deux membres de l'équipe, donc je vais vous laisser vous présenter et dire quel a été votre rôle un peu plus approfondi que ce que j'ai pu dire là dans le projet. Donc bonjour à tous les deux, déjà Héloïse et Yann.
Du coup, moi, c'est Héloïse. Je joue dans Ombre. Et on va dire que c'est un peu moi qui suis à l'origine du projet, parce que Yann m'a fait lire le texte un peu par hasard. Et j'ai un peu eu un coup de cœur, mais enfin, j'ai vraiment bien aimé. Je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de continuer un peu un travail qu'on avait commencé l'année dernière ensemble avec Quartet. Et du coup, on a réuni une équipe un peu plus grande pour essayer des nouvelles choses. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et puis du coup, après, Adrienne nous a rejoint, puis Julie, puis Léa. Et on a constitué un peu comme ça, petit à petit.
Oui, ça partait en fait de l'équipe qu'on avait déjà construite à partir de Quartet. Il y a effectivement Héloïse qui a sollicité une grande partie d'entre nous pour travailler sur Ombre. Et à côté de ça, on avait ébauché quelques petites choses à l'occasion d'un événement qui s'appelle l'Assemblée d'Avril au Hall de Skarbek avec Adrienne, où certaines formes, notamment à partir d'un travail sur le tissu et de la dilatation d'un acteur dans l'espace, on avait envie de le poursuivre au plateau. Et c'était l'occasion de croiser deux envies de travail à deux endroits différents, d'un côté le costume, de l'autre côté le jeu. Le texte s'y prête beaucoup.
Alors, est-ce que ce texte, vous pouvez nous en parler un petit peu, nous présenter un peu le spectacle, pas forcément de ce dont ça parle, je ne sais pas si c'est par là que vous avez envie de l'aborder. Mais...
Alors, on va dire simplement que c'est une réécriture du mythe d'Orphée et d'Eurydice, du point de vue d'Eurydice, je pense que jusque-là ça va. En gros, ça se situe au moment où le personnage d'Eurydice meurt pendant toute sa descente aux enfers, qui n'est jamais traitée dans le mythe, puisque c'est toujours la souffrance d'Orphée qui est mise en évidence. Et là, du coup, c'est un peu une résistance du personnage d'Eurydice à la sortie des enfers qu'essaye d'organiser Orphée. Et du coup, c'est tout ce... Il y a tout un mélange de discours un peu de résistance au personnage d'Orphée, un peu ses fantasmes, ses obsessions de sa vie terrestre qu'elle a quand même un peu de mal à quitter. Et donc en fait c'est toute une sorte de... un petit temps qui est étalé comme ça pour raconter sa descente aux enfers et son mouvement un peu de fonte parmi les autres ombres.
Voilà. En fait, au-delà de la question du thème qui est effectivement la plongée dans les enfers et une large divagation sur la mort d'Eurydice qui quitte son existence terrestre et qui se débarrasse à la fois de son corps et de d'Orphée et de tout ce qu'il a en tête son vivant, on retrouve un procédé qui est très 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 fréquent en fait dans les derniers textes de Jelinek, qu'elle a nommé des textes surface. Physiquement parlant, le texte se présente vraiment comme un gros bloc de 120 pages dans lequel Jelinek se laisse traverser à la fois par tout le mythe d'Orphée et Eurydice, par toute l'histoire de la psychanalyse et par un conte allemand qui s'appelle L'étrange histoire de Peter Schlemihl, de Chamisso, c'est plus ou moins pré-romantique. Et par association d'idées, Jelinek va se lancer dans une espèce de flux de paroles qui est prononcé par Eurydice, mais dans laquelle elle s'inscrit assez régulièrement en tant qu'autrice, et elle fait justement d'Eurydice une poétesse, où le texte devient une énorme partition de jeu et une énorme partition de plein de discours rapportés qui nous a servi à éclater le personnage d'Eurydice en plusieurs interprètes, et qui nous a permis d'élaborer à partir de ça un espèce de système de voix et de contre-voix, où on réunit, enfin on essaie en tout cas, de faire en sorte qu'Eurydice apparaisse vraiment comme un personnage unique, mais traversé de plein de conflits, plein de contradictions, plein de hantises, ce qui revient en permanence dans le texte, en fait, où les parties du texte viennent à s'affronter les unes les autres. C'est ce qui fait que c'est. Enfin, je pense que c'est là que vient l'envie de travailler d'Héloïse. C'est vraiment un très très gros support de jeu avant tout.
Et alors concrètement, du coup, comment est-ce que vous avez travaillé sur cette pièce? Comment s'est réparti le texte? Yann, tu parlais d'un gros bloc de 120 pages. Comment vous l'avez concrètement découpé, travaillé et réparti entre les trois comédiennes?
Bah, au début, on a fait beaucoup de lectures. Au début, Léa, par exemple, voulait travailler en dramaturgie. Et puis finalement, les différents travaux, un peu d'exercices qu'on avait commencé à mettre en place, notamment en reprise de ce qu'ils avaient travaillé à Scarbeck, sur le corps, sur un peu les tissus, sur tout un tas de choses, lui a donné envie de nous rejoindre. Du coup, bah, Yann a procédé à un travail de coupe et de répartition du texte, en fait, qui du coup a permis de construire une un peu nouvelle partition. Enfin, ça a vraiment été un travail d'adaptation, en fait, parce que enfin, comme ça, c'était pas très évident d'y trouver précisément trois voix, même si au final, ça s'y est plutôt bien prêté.
En fait, au départ, on effectivement, on est parti de lecture intégrale en permanence où on traversait tout le texte et à lire d'une traite, ça durait 2 heures et demie, un petit peu plus, et on lisait vite. On savait que dans le processus de travail, contrairement à, enfin, pas totalement contrairement, mais un petit peu plus radicalement que ce qu'on avait fait sur Quartet, on n'avait pas tout à fait envie de diviser le travail de table et le travail de plateau. Mais on n'avait pas non plus envie de procéder du tout en écriture de plateau ou en faisant absolument rien enfin, en préparant pas le texte préalablement. Ça s'est au départ concrétisé par deux équipes, enfin deux moments de travail distincts où tout le monde se retrouvait pas, enfin tout le monde pouvait venir, mais globalement un travail qui était centré sur le jeu et un travail qui était centré sur la table. Et si c'était centré sur la table, on ne divisait pas entre acteurs et personnes qui s'appropriaient le texte. Et au plateau, dans les exercices, ce qui est assez intéressant, ce qui a fait qu'on s'est retrouvé avec bah, Léa, par exemple, qui au départ voulait simplement faire de la dramaturgie et qui s'est retrouvée sur le plateau, c'est qu'on joue tous, on apprend la plupart du temps un peu tous des parties du texte, et on se retrouve à devoir les interpréter pour savoir comment on peut transformer et la mise en scène et la dramaturgie de l'intérieur. Pour ce qui est de la question des coupes, ce qui a été le plus terrible, c'est qu'on avait. Enfin, je sais que moi, pour le répartir, j'ai eu vraiment besoin de me l'approprier complètement, donc je l'ai intégralement retapé. Ce qui me permettait d'utiliser vraiment le texte comme matière. Je le retapais, je le lisais à voix haute tout le temps. Et je sais que pour les. Enfin, j'ai vraiment majoritairement fait les coupes. Enfin, Adrienne en a fait quelques-unes. Et je crois que Léa aussi, mais globalement, c'est moi qui ai tout retapé. Ça permet d'en faire de prendre vraiment une plus grosse liberté sur le travail du mot et des phrases en tant que tel. D'autant que c'est exactement comme ça que procède Jelinek aussi. Elle a pas mal de textes pour expliquer comment l'arrivée de l'informatique a changé tout son rapport à l'écriture, et que maintenant elle se retrouve comme avec un piano et une partition en face d'elle, où elle voit les mots s'afficher, les efface au fur et à mesure, et elle les recompose en permanence. Ses textes sont maintenant toujours en allemand publiés sur son blog et reparaissent en permanence sur son blog dans des versions modifiées parce qu'elle en fait toujours une matière malléable. On a voulu vraiment conserver ce côté malléable du texte et voilà, c'est passé par ce travail-là.
Et moi, je voulais juste revenir, pardon, sur le travail des drapés, des textures dont vous avez parlé, que vous avez commencé à Starbeck. Et j'ai vu dans la présentation que vous insistiez aussi beaucoup là-dessus, parce que du coup, ça se passe aux enfers et vous vouliez donner un aspect de tissu assez particulier à ça. Et du coup, je voulais savoir comment vous aviez travaillé avec ces tissus et voilà, si ça avait constitué une grosse partie également du travail avec le jeu.
Oui, alors au début, ça a été plutôt... En fait, il y a beaucoup le motif dans le texte du fait de se recouvrir parce que en fait, il y a une espèce d'analogie entre les ombres et les vêtements dont Rydis était addict de son vivant. Enfin, en gros, hein, parce que c'est des fois plus compliqué que ça. Mais et du coup, au début, on a réuni pas mal de quantités de tissus qui nous permettaient de se recouvrir, par exemple des housses de couette ou des choses comme ça. Donc, on a fait plusieurs exercices avec le texte là-dedans. Puis petit à petit, ce sont vraiment devenus des objets où, avec la costumière, on s'est dit que c'était important de les avoir. Du coup, après, ben, en fait, on a trouvé un peu des formes du tissu avec lesquelles on avait envie de travailler. Du coup, ben, elle les a conçues. Puis après, ça a été un peu un travail à la fois un peu d'état, d'énergie autour de ce que ça pouvait produire, et en même temps, un travail un peu graphique de comment on pouvait les faire se mouvoir dans l'espace et dessiner des formes. Donc ça a été un peu un mélange comme ça de jeu et un peu bah, de travail d'objet. Et du coup, ça aussi, on a aussi décidé que ce serait important pour la scénographie. Du coup, le décor est conçu en partie avec du tissu. Et on a essayé aussi d'interagir le plus possible avec ce décor, enfin, dans certaines parties du spectacle, pour vraiment créer une continuité entre les costumes, les matériaux tissus avec lesquels on travaille et le décor, pour un peu organiser cette espèce de fusion entre le corps et les enfers, et entre bah, le personnage et l'endroit dans lequel elle va disparaître.
Et même très physiquement, surtout entre les... Enfin, le tissu nous sert à faire non seulement fusionner les interprètes et le décor, mais les trois actrices entre elles, parce que la principale difficulté que pose le texte, c'est que Eurydice dans les enfers se dilue complètement, elle se débarrasse de toute forme terrestre de corporalité, et elle se confond parmi toutes les autres ombres. Il est dit que les ombres s'enfilent les unes les autres dans les enfers, se recouvrent les unes dans les autres, mais ne sont plus la couverture, ou en tout cas il n'y a plus rien à recouvrir, elles ne sont qu'une vaste couverture. Ça, avec des corps matériel non recouvert en tant que tel, on n'arrivait absolument pas. On a essayé avec des techniques de danse contact, on a essayé avec plusieurs types de travail de corps, mais c'était assez clair que c'était le tissu, indépendamment du vêtement, vraiment la matière tissu, qui nous permettait de faire complètement disparaître les interprètes et de brouiller dans plusieurs séquences du travail et du coup du spectacle, mais on n'a pas tout gardé évidemment, les frontières physiques entre les différentes interprètes. Ce qui part des fois totalement dans des codes de jeu farcesques ou comiques, à l'inverse des fois dans des choses beaucoup plus abstraites ou inquiétantes. En tout cas, le tissu est un vrai outil pour essayer de créer des surcorps sur le plateau. Et on travaille d'une part sur le tissu, d'autre part sur le vêtement. Là où la scénographie, c'est beaucoup plus des vêtements en tant que tels. C'est presque une espèce de vaste penderie. C'est un peu abstrait quand même, mais vous verrez. Mais en tout cas, on a ces deux lignes que sont et le tissu et le vêtement comme deux questions un peu séparées.
Et surtout qu'en fait, dans le texte, il y a vraiment une progression dans ces enfers. Au début, elle a l'air quand même d'être encore un peu... pas vraiment vivante, mais en tout cas un corps, et il y a vraiment une disparition progressive, et donc on a essayé par ces différents moyens de créer cette progression-là pour qu'il y ait vraiment un mouvement en fait, de descente dans ces enfers.
Sachant que ça nous permet aussi de creuser un gros contraste entre Eurydice en tant que telle, qui est du coup incarnée par trois interprètes, et les suppliciés qu'on croise dans les enfers, parce que les enfers ne sont pas du tout vides, et même si très très peu de noms sont donnés par Jelinek, on croise pas beaucoup de suppliciés mythiques, Sisyphe,
Tantale
et Danaïde. On n'a pas évidemment tout traité, parce que ça avait beaucoup 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 de matière et peu de temps de création, sans parler de la question des moyens concrets. En revanche, ce qui les caractérise et ce qui permet de les distinguer des Eurydice, c'est que ces suppliciennes ne peuvent pas devenir ombres et ont gardé un corps dans les enfers et sont condamnées à garder un corps dans les enfers. Là réside leur supplice. On a du coup essayé de bien matérialiser par des tâches concrètes, par un travail physique, par quelque chose qui mettait un petit peu en valeur l'aspect très répétitif et très corporel du supplice. Et de le mettre en contrepoint permanent de cette espèce d'évanescence et de cette dilatation, cette vaste respiration qu'est la mort d'Eurydice, qui est en fait traitée comme quelque chose d'extrêmement positif. C'est là que le texte de Jelinek est complètement paradoxal, mais surprenant. La seule libération possible qu'elle entrevoit, c'est dans cette dilatation dans les enfers, et du coup, plus ou moins dans la mort, plus ou moins dans une disparition totale du corps. Qu'on a du mal à caractériser d'optimiste, mais c'est ça reste
oui,
quand même très...
Oui, c'est hyper ambigu parce que c'est jamais morbide ou... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est toujours traité quand même sur quelque chose d'assez joyeux, en fait, ce qui est quand même assez paradoxal. Et du coup, c'est pour ce travail de supplice qu'on a recruté, du coup, Antoine, Lélie et Lucie.
Voilà. D'accord, très bien. Eh ben, merci à tous les deux, Héloïse et Yann, d'être venus nous parler de Ombre. Et donc, si vous voulez aller voir cette pièce, cela se joue au Théâtre Cantor de l'ENS de Lyon les 1er et 2 mars à 20h. Donc, il s'agit du vendredi et du samedi. Et le dimanche 3 mars à 19h, on vous mettra les liens pour réserver sur le site de Transistor. Et vous pouvez également réserver aux rues si vous êtes à l'ENS. C'était donc le numéro 15 de Microcoulisses. L'émission était réalisée par Colline Lafontaine et Juliette Meul. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et à très vite pour de nouvelles créations sur Lyon.